Alors, notre église est une église où on pratique la prière pour la guérison. Hein, ça arrive régulièrement pour les frères et sœurs qui le demandent. Et parfois, nous sommes amenés à raconter le résultat de ces prières. Moi, il me vient deux exemples en tête. Celle d'Olaf, hein, pour son dos, si tu te rappelles. Et puis la mienne concernant une douleur intense que j'avais au genou qui a disparu miraculeusement. Mais nous connaissons aussi des cas où les personnes ne sont pas guéries ou pas encore guéries. Jean-Paul qui a traîné sa lombalgie pendant 3 semaines. On a une fille de nos amis qui a une maladie génétique. Et puis on a un ami qui est un peu plus âgé que nous qui a déjà un Parkinson assez prononcé. C'est tôt, oui. Suite à cette guérison de mon genou, la guérison du dos d'Olaf, hein, j'ai eu envie d'aborder ce thème, la guérison. Alors, mon ambition est très modeste, hein, je le dis tout de suite. Il y a des études, des conférences, des livres entiers qui ont été écrits sur ça. C'est pas en quelques minutes que je pourrais faire le tour de la question, mais je voudrais juste aborder quelques passages de la Bible et vous faire part de quelques réflexions que j'ai eues sur ce thème. Alors d'abord, est-ce que vous savez d'où vient le mot, le prénom Raphaël? Oui, c'est un ange. Oui. Et qu'est-ce que ça veut dire, Raphaël? Personne ne sait. Raphaël, c'est El Rapha. C'est un des nombreux noms de Dieu. Et ça veut dire Dieu guérit. El Rapha, Dieu guérit. Alors, il y a deux passages qui utilisent ce terme. C'est déjà dans Exode 15, 26. Alors, je tiens à votre disposition toutes les références que je vais citer, si vous voulez revenir dessus par la suite. Exode 15, 26, Dieu dit à Moïse, je suis le Dieu qui te guérit. Et il y a d'autres passages qui parlent encore du Dieu guérisseur. Et pourquoi est-ce qu'il est celui qui nous guérit? Parce qu'on est malade. On l'est tous, malade. Hein? La maladie, elle vient principalement de notre état de pécheur, de notre état de pécheur. Le péché originel a entraîné la dégénérescence, autrement dit, la vieillesse programmée de notre corps. Genèse, chapitre 3, versets 17 à 19. Alors, on est juste après la chute, hein, donc Dieu condamne la femme et l'homme suite à leur transgression, et il dit à l'homme, puisque tu as écouté ta femme et mangé du fruit au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras pas, le sol est maudit à cause de toi, c'est avec peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie, il te produira des ronces et des chardons et tu mangeras de l'herbe des champs, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain et c'est là que je veux en venir. Jusqu'à ce que tu retournes à la terre, puisque c'est d'elle que tu as été tiré. Oui, tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Citons aussi Genèse 6, les versets 1 à 3. Alors, les hommes ont commencé à se multiplier à la surface de la terre, et que des filles leur fussent nées, les fils de Dieu. Alors, les fils de Dieu dans ce passage-là, ces fils avec un F minuscule. On peut penser que ce sont des anges déchus, c'est pas toujours très très clair. Hein. Ça n'a rien à voir avec le fils de Dieu avec un F majuscule, bien sûr. Les fils de Dieu ou les anges déchus virent que les filles étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qui choisirent. Alors l'Éternel dit, mon âme ne contestera pas toujours avec l'homme, car l'homme n'est que chair, il vivra 120 ans. Et juste avant ce passage, on voit que les premiers hommes, les premiers patriarches vivaient plusieurs centaines d'années. Et on a l'impression que Dieu, il en a marre des hommes. Il en a marre de tous les péchés qu'ils font, de toutes les bêtises qu'ils font. Et il dit, j'en ai marre de parler avec eux, ils me cassent les pieds. Voilà, maintenant ils vont vivre 100, 120 ans, point. Donc effectivement, les maladies sont dues à la dégénérescence programmée de notre corps. La maladie, elle est aussi due à nos péchés, qu'ils soient individuels ou qu'ils soient collectifs. Alors, quand je parle de péché individuel, ça veut dire déjà qu'on sait que toutes sortes de comportements addictifs entraînent des maladies. On sait que le tabac, l'alcool, même la nourriture, le sport, pratiqué ou utilisé de manière addictive, conduit à des maladies. Il y a aussi tous nos comportements négatifs, l'inquiétude, le stress, la recherche de perfection permanente entraînent des maladies comme la dépression, le burn-out, je sais de quoi je parle, les ulcères d'estomac, les douleurs articulaires, le dos, le cou, le genou, etc. Les péchés de maltraitance peuvent causer des maladies psychologiques ou psychosomatiques chez les victimes de ces maltraitances. Quant aux péchés collectifs, je vais en citer que, par exemple, que deux, c'est les conséquences de la pollution de l'eau, la pollution de l'air, qui entraîne des affections respiratoires ou cutanées, les guerres, les déplacements de population, les tensions politiques qui entraînent, à cause de ces déplacements de population, malnutrition, troubles de la croissance chez les enfants, troubles du comportement chez les enfants et les adolescents. Voilà. Dans quelques cas très précis, la maladie peut venir de Satan directement. C'est le cas pour Job. Alors, c'est un passage, bon, il faut faire un peu attention avec ce passage-là. Je vais le citer pour qu'on remette bien les choses en perspective. Dans le premier chapitre de Job, il commence à lui arriver des malheurs. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu, Job 1, d'abord il perd ses enfants, il perd ses richesses, etc. Et suite à un échange entre Dieu et Satan sur la capacité qu'aurait Job de rester intègre et droit s'il lui arrivait malheur, Satan veut s'attaquer directement à la santé de Job. Et Dieu l'autorise à s'attaquer à sa santé pour vérifier son intégrité et sa droiture. L'Éternel dit à Satan, le voici, je te le livre, mais seulement épargne sa vie. Satan se retira de la présence de Dieu, puis il frappa Job d'un ulcère purulent depuis la plante des pieds jusqu'au sommet du crâne. Alors pour les âmes sensibles, rassurons-nous, pour ceux qui ne connaîtraient pas le passage, pas tout le livre de Job, ça se termine bien. Il récupère de nouveaux enfants, des richesses, etc. Et il peut dire, Job 42, verset 5, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil te voit. C'est pourquoi, c'est à cause de toutes ces maladies que nous avons tant besoin de l'action de Dieu dans nos vies. Et je vous propose de voir comment Dieu agit de manière guérissante dans nos vies. Alors, d'abord, soyons clairs, la guérison, elle est spirituelle. Dieu nous guérit spirituellement par Jésus-Christ. Nos guérisons, notre guérison a été acquise à la croix. Dans un passage d'Isaïe au chapitre 53, il est abordé sous forme prophétique le sacrifice à la croix, notre Seigneur Jésus. Je vais le lire. C'est Ésaïe 53, versets 4 et 5. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous, nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Dans ce passage, le mot souffrance signifie aussi maladie en hébreu. Et ce texte associe la guérison et la paix. Donc, nous sommes déjà guéris tous. Nous sommes tous guéris par le sacrifice de Jésus à la croix. Et cette guérison, elle est spirituelle, elle concerne notre âme, qui est guérie de manière éternelle, contrairement à la guérison physique qui, par nature, est temporaire, puisqu'on mourra tous. Il y a d'autres passages qui associent le pardon à la guérison, par exemple, le psaume 103, verset 3. C'est lui qui pardonne toutes tes fautes et qui guérit toutes tes maladies. D'abord parce que nous avons premièrement besoin d'une guérison spirituelle, la guérison de notre âme, et ensuite parce que le Seigneur sait combien la guérison de notre âme peut entraîner partiellement la guérison de notre corps. Notre âme sauvée expérimente le pardon, pardon reçu, pardon accordé. Notre âme sauvée expérimente la paix qui va peu à peu limiter nos peurs et nos angoisses. Et le pardon et la paix, c'est un baume bienfaisant sur nos blessures, sur nos plaies, sur nos souffrances, sur nos maladies psychologiques. De nombreux thérapeutes, même non-croyants, s'accordent sur le fait que le pardon est une thérapie. Pardon qu'on reçoit et le pardon que l'on donne. Et on va voir que le pardon des péchés est souvent associé à la guérison physique dans le ministère personnel de Jésus. J'appellerais ça, moi, la guérison messianique. C'est-à-dire que la venue de Jésus sur terre est accompagnée de nombreuses guérisons physiques durant toute la période de son ministère public qui dure 3 ans. Je ne vais pas citer tous les passages, mais seulement les faits. Il y a la guérison de la belle-mère de Simon, il y a la lèpre, la paralysie totale ou partielle, les écoulements de sang, la cécité, la surdité, le mutisme, des maladies, des infirmités diverses, des exorcismes, des résurrections, celle de la fille de Jaïros, celle du fils de la veuve dans le village de Naïn, celle de Lazare, qui est racontée dans le chapitre 11 de Jean. Ces résurrections étaient temporaires, elles étaient corporelles. Ces personnes-là sont, si je puis dire, remords. Ils sont morts pour de bon. Mais ces résurrections... ces résurrections temporaires, c'était pour manifester la puissance que Jésus avait. Et puis, il y avait aussi des guérisons de masse. Dans Matthieu 9, 35, on lit « Jésus parcourait toutes les villes et les villages, il enseignait dans les synagogues, il proclamait la bonne nouvelle du royaume et il guérissait toute maladie et toute infirmité. » Alors, on peut penser que s'il a guéri toutes ces maladies, bien sûr, c'est par compassion, par amour, mais aussi parce que ces guérisons sont le sceau, sont la preuve de son identité de Messie. Il y a deux passages très intéressants par rapport à ça. Alors d'abord, c'est dans Marc chapitre 2, à partir du verset 5. C'est l'histoire où Jésus est dans une maison entourée de plein de gens. Il y a des amis qui viennent avec un paralytique posé sur un grabat. Ils n'arrivent pas à rentrer, ils montent sur le toit, ils démontent le toit et ils font glisser le grabat jusqu'au sol. Et Jésus dit, voyant leur foi, Jésus dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes assis qui tenaient ce raisonnement. « Pourquoi parle-t-il ainsi ? » Il blasphème. « Qui peut pardonner les péchés, sinon un seul, Dieu ?» Jésus connut aussitôt par son esprit les raisonnements qu'il tenait, et il leur dit, « Pourquoi tenez-vous de tels raisonnements ? » Qu'est-ce qui est le plus facile ? De dire au paralytique « tes péchés sont pardonnés » ou te dire « lève-toi, prends ton grabat et marche ». Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a autorité pour pardonner les péchés sur la terre, il dit au paralytique « je te le dis, lève-toi, prends ton grabat et retourne chez toi ». L'homme se leva, prit aussitôt son grabat et sortit devant tout le monde, de sorte que stupéfaits, tous glorifiaient Dieu en disant « nous n'avons jamais rien vu de pareil. » La guérison proclame la gloire de Dieu. Et un autre passage, encore plus intéressant, c'est dans Matthieu chapitre 11 à partir du verset 2. Or, dans sa prison, Jean le Baptiste avait entendu parler de ce que faisait le Christ. Il envoya deux de ses disciples lui demander « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Alors, pour ceux qui font de l'animation, c'est une double question fermée. Vous savez, vous avez des questions fermées, des questions ouvertes. Question fermée, c'est oui, non. Question ouverte, on encourage la personne, surtout si elle est un peu intimidée, à répondre par une phrase. Là, c'est une double question fermée. Ça veut dire que Jésus, il aurait pu répondre, comme dans les sondages, oui, non, ne se prononce pas. Il aurait pu dire ça. Mais qu'est-ce qu'il fait, Jésus? Il répond par une phrase. Il dit, il cite un passage du prophète Ésaïe, chapitre 35, versets 5 et 6. Allez rapporter à Jean ce que vous entendez, ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. La guérison, c'est la preuve que Jésus est le Messie et que Dieu agit. Alors, Dieu s'occupe aussi de nos guérisons physiques, à nous. Hein. Dieu nous a dotés d'une capacité à guérir temporairement, de plusieurs manières. D'abord, par les capacités de notre corps à se régénérer. Vous avez tous certainement vu ça. On se blesse, la peau se reforme. On se fait un bleu, les veines se ressoudent. On se casse un membre, l'articulation se ressoude aussi. Nous sommes des êtres mortels, mais avec cette dotation, je dirais, de Dieu, d'avoir cette régénérance, merci, temporaire. Mais c'est une guérison temporaire, soyons donc bien, bien au clair par rapport à ça. Mon genou, il a guéri, gloire à Dieu. Néanmoins, je vais continuer à vieillir, mon genou va continuer à se dégénérer, et si ma vie obéit aux statistiques, dans 30 ans, je suis morte. Dans 100 ans aussi. Mais dans 30 ans, je suis morte. Peut-être même avant, je ne sais pas. Voilà, merci. Et Dieu a aussi doté l'humanité de guérison, parce qu'il a doté la capacité aux hommes de faire des progrès dans la médecine, des progrès permanents, depuis plusieurs siècles. Donc il a doté l'homme d'intelligence pour faire tous ces progrès. Nous assistons à des guérisons de maladies qui, il y a encore quelques décennies, étaient fatales. Et puis, Dieu nous guérit aussi, bien sûr, par sa parole et par la prière. Alors, dès le début de l'Église primitive, il y a un premier miracle de guérison. C'est dans Actes 3, versets 3 à 6. Alors, le contexte, hein. Pierre et Jean, ils montent ensemble au temple. Il y a un homme, boiteux de naissance, que ses parents et amis ont l'habitude d'installer tous les jours à la porte qui est appelée porte belle du temple, et il fait l'aumône. Pierre et Jean qui sont sur le point d'entrer dans le temple, ils y entrent pour la prière. Donc il y a beaucoup, beaucoup de monde. Pierre accompagné de Jean fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous !» Et le boiteux les regardait attentivement, s'attendant à recevoir quelque chose d'eux. Alors Pierre lui dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Puis il le prit par la main droite et le fit lever. Ses pieds et ses chevilles s'affermirent immédiatement. D'un bond, il fut debout, il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant, et adressant des louanges à Dieu. C'est ce miracle qui a permis à Pierre et Jean d'annoncer l'évangile à la nombreuse foule présente dans le temple. Toujours Pierre et Jean, avec d'autres disciples, alors c'est après leur premier passage en prison, premier passage et première libération. C'est dans chapitre 4, versets 29 et 30, Pierre et Jean et d'autres disciples demandent à Dieu d'appuyer leur message par des guérisons et des miracles. Et ils disent, ils prient. Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces, la menace des gens qui les ont mis en prison et les ont libérés, et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, déploie ta puissance pour qu'il se produise des guérisons, des signes miraculeux et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. La guérison sous-tend toujours l'action souveraine de Dieu. Notre besoin d'être guéri dans notre corps, elle est légitime. D'autres passages nous demandent de prier pour ça, notamment Jacques, chapitre 5, versets 14 à 18. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en lui appliquant de l'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, le pardon lui sera accordé. Avouez donc vos fautes les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin d'être guéris. La prière du juste agit avec une grande force. Puis Jacques fait allusion à un épisode de la vie du prophète Élie. Alors, la vie du prophète Élie, ça se situe à peu près au 9e siècle avant notre ère. C'est raconté dans le premier livre des Rois, à partir du chapitre 18. Il y a ce passage où Élie est prophète en Israël. Il y a plusieurs rois qui se succèdent. Il y a la reine Jézabel. C'est un moment de très grande tension politique et spirituelle. Et Élie, dit Jacques, était un homme de la même nature que nous. Il a prié avec insistance pour qu'il ne pleuve pas et il n'est pas tombé de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il a de nouveau prié et le ciel a donné de la pluie et la terre a donné son fruit. Alors ce passage, il est très riche concernant tout un tas de choses, mais concernant la foi. Par la foi, nous confessons nos péchés et nous savons que Dieu nous les pardonne à cause de la croix. Je précise qu'un péché, il est confessé une fois pour toutes. On n'a pas besoin d'y revenir. Si on a l'impression que Dieu ne nous a pas pardonné et qu'il faut reconfesser le péché, cette impression ne vient pas de Dieu. Je vous le dis. Ensuite, dans ce passage, par la foi, nous demandons la guérison. Dans ce passage, il peut s'agir de guérison physique, mais aussi de guérison spirituelle, puisqu'on dit « la prière sauvera le malade » et ses péchés seront pardonnés. Et par la foi, nous entrons dans un combat spirituel, comme Élie. Élie, il n'a pas prié pour qu'il ne pleuve pas pour s'amuser, qu'il pleuve pour s'amuser. Il était prophète au royaume d'Israël, donc comme je l'ai dit, et dans ce royaume d'Israël, il y avait les prophètes de Baal, ou les prêtres de Baal, et la reine Jézabel, et certains rois en Israël, ils étaient partagés entre les deux. Et Élie, quand il fait cette prière, c'est vraiment pour combattre les prêtres de Baal et pour montrer que Dieu est plus fort. D'ailleurs, en préparant ce message, je me suis dit que rien sur ce passage, il y avait un message à faire. La prière, elle sert à demander la guérison, mais elle sert aussi à affirmer la souveraineté de Dieu sur nos vies. Souveraineté de Dieu par rapport à la pseudo-souveraineté d'autres personnes. Je vais aborder enfin le dernier élément quand on parle de la guérison, c'est « et si on ne voit pas de guérison physique ?» Si on n'est pas guéri, qu'est-ce qui se passe ? Ben, mes frères et sœurs, on sera comme Paul, comme l'apôtre Paul. Paul, il souffrait d'une infirmité. Sans doute, certains exégèses le pensent, lié à ses yeux. Quand il avait été touché sur le chemin de Damas, il est resté 3 jours aveugle, donc c'est raconté dans le chapitre 9 du livre des Actes. Par la suite, il a demandé la guérison de cette infirmité. C'est raconté dans 2 Corinthiens 12, 8 et 9. 3 fois j'ai supplié le Seigneur de l'éloigner de moi, mais il m'a dit, Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Imaginons que Paul aurait été guéri de ses yeux. Tant mieux pour lui. Ça ne l'aurait pas empêché de mourir de toute façon. Mais est-ce qu'il aurait écrit cette phrase merveilleuse ? Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Combien cette phrase a été un baume depuis 2000 ans sur le cœur et l'âme de millions de gens. Et ensuite, il n'aurait peut-être pas annoncé l'évangile aux habitants de Galatie, qui raconte dans Galates 4,13 que c'est à cause d'un problème physique qu'il a annoncé l'évangile aux Galates la première fois. Ce que je propose maintenant, puisqu'on a pas mal parlé de la guérison, c'est s'il y a des personnes parmi vous qui ont envie maintenant qu'on prie pour eux, qu'on prie pour leur guérison, je propose qu'Olaf et moi, on soit disponibles, si vous le voulez. Si vous, personne ne se sent concerné maintenant, ce n'est pas grave. Je voudrais vous dire déjà que nous sommes plusieurs dans l'Église à avoir été au bénéfice de la guérison. Nous sommes plusieurs à être disponibles pour prier pour vous. Que Olaf a déjà aussi posé les huiles sur quelqu'un et que ça a été efficace et que vous pouvez toujours le demander. Et je voudrais vous laisser deux passages. L'un qui dit que la guérison complète de nos corps, ce sera au ciel. Apocalypse 21,4. Il essuiera toute larme de leurs yeux. Il n'y aura plus de mort. Il n'y aura plus ni deuil, ni lamentation, ni douleur. En effet, les choses anciennes auront disparu. Et surtout, vous vous rappelez le premier passage dont je vous ai parlé, qui associait la guérison et la paix. Je vous laisse un dernier passage qui parle de paix, qui dit, alors c'est Philippiens 4, versets 6 et 7, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Et j'ai envie de vous dire, pour terminer ce message, avant de rechercher le bénéfice de la guérison, recherchons la communion avec le guérisseur. Je vous remercie.